Radio JV présente chaque lundi dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo. Dossier, interview, chronique, rétrospective, quiz. Durant une heure, tout est possible. Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur ce 34e numéro du Player Club. Nous sommes le lundi 18 mai et ce soir on va parler de documentaires jeux vidéo. Et pour en parler avec moi, je reçois tout d'abord un journaliste reporter d'images, un ancien sociétaire mais toujours pigiste pour Gamekult, Stéphane Boulet ou Plugin Pépi dit papa. Bonsoir papa.
Bonsoir, bonsoir.
Alors ton Twitter, hein, GK Plugin Baby.
Et tout à fait.
Surtout, oui, l'émission 24 FPS pour Gamekult et la torture de stagiaires, bien sûr.
Exactement, les bons hobbies.
Et l'émission 24 FPS qui est dédiée au cinéma et aux jeux vidéo.
Exactement.
Tu nous parles donc de Brett Ratner, je crois, dans le prochain numéro.
Oui, Brett Ratner en combo avec Michael Bay, voilà, une spéciale pour Caroline.
Ah, c'est magnifique. Et pour nous accompagner, un autre connaisseur, et non moins adorable, Arnaud. Bonsoir Arnaud.
Salut.
Tu écris pour lecrunch.fr, qui est ton site.
Voilà.
Voilà, et on peut te lire sur ARNDKR sur Twitter.
Voilà, c'est ça.
Alors, pendant une heure, on va être en direct avec vous pour parler de ces documentaires dédiés aux jeux vidéo, alors, de Indie Game, de Movie à Super Game Jam ou Pixel Poetry. On va s'intéresser au phénomène et creuser un petit peu toutes les raisons qui ont poussé à leur arrivée en masse depuis quelques années. Donc, pendant l'émission, n'hésitez pas à réagir au hashtag le Player Club. On lira vos réactions et nos invités vous répondront directement. On se retrouve dans quelques secondes.
De 21h à 22h, le Player Club.
Et on est de retour. Et on est de retour dans le Player Club. Alors, on va commencer directement cette première partie et je me tourne d'abord vers le professionnel, papa. En quoi le documentaire JV est différent d'un documentaire traditionnel ?
Eh ben, j'ai envie de te dire que basiquement, le documentaire JV les fondamentaux, si tu veux, ne diffèrent pas énormément d'un documentaire traditionnel. La particularité qu'on peut peut-être y trouver, c'est que le jeu vidéo, contrairement à, par exemple, je sais pas, le cinéma ou les mecs qui font du ski, c'est que quand tu fais un jeu vidéo, c'est pas forcément hyper visuel. Donc c'est peut-être la particularité que je pourrais trouver qui est plus une particularité de forme que de fond finalement, que ce sont principalement des mecs devant un ordinateur ou qui réfléchissent dans des salles de réunion quoi. Voilà. Mais après sur le fond, un documentaire de jeux vidéo, si on regarde un peu ce qui a été fait, ce qui se fait, etc. On retombe un peu dans les mêmes habitudes, les mêmes schémas, les mêmes qualités, parfois les mêmes défauts que les documentaires plus traditionnels, enfin plus traditionnels, historiquement plus traditionnels on va dire plutôt.
D'accord. Et une question pour vous deux, mais est-ce qu'on regarde un documentaire JV de la même manière qu'un documentaire animalier ou un documentaire sur les voyages par exemple, ou est-ce que c'est vraiment différent au final ?
Alors, pour moi, le documentaire jeu vidéo, enfin le documentaire animalier, c'est pas forcément le rapprochement le plus direct, mais tu peux le rapprocher du documentaire cinéma, par exemple. Enfin, tu retrouves un peu en tout cas moi quand je le regarde, tu retrouves un peu les mêmes choses, alors que le documentaire animalier, c'est t'as un côté qui est plus comment dire. En fait, dans le documentaire jeu vidéo comme dans le documentaire cinéma, ce qui est intéressant, c'est que t'adresse à la façon de faire quelque chose, voilà, la façon de réfléchir. Alors que dans le documentaire animalier, bah finalement t'es un espèce de témoin des choses qui se passent, voilà quoi.
T'es beaucoup plus passif au final.
C'est pas que t'es passif, mais disons que tu vas pas chercher la même chose, tu vois, dans le documentaire sur la création d'une œuvre, qu'elle soit, voilà, que encore une fois que ce soit cinéma, jeu vidéo, ou même tu peux faire un documentaire littéraire. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que t'essayes d'attraper ce qui ne se voit pas forcément, tu vois. C'est, on va dire.
Oui, voilà, c'est le côté culturel du jeu vidéo, comme le côté culturel finalement d'un film que tu peux retrouver. Moi perso, j'ai pas mal regardé aussi de documentaires sur les comics, sur les adaptations de comics au cinéma, etc. Mm-hmm. Et finalement, sur l'approche, on a quelque chose de sensiblement similaire.
Toi, Arnaud, tu es passionné de documentaires JV. C'est d'ailleurs toi qui nous avais proposé le sujet il y a quelques mois de cela. Et on t'en remercie. Qu'est-ce qui te passionne, toi, dans le documentaire JV ?
Bah, déjà, je pense que pour regarder des documentaires jeux vidéo, il faut déjà être passionné de jeux vidéo. Ce qui, voilà, mon père, par exemple, ne va pas regarder des documentaires jeux vidéo à l'appel comme ce que j'ai fait moi ces deux dernières années. En revanche, voilà, le côté documentaire jeu vidéo est intéressant parce que du coup, comme on est dans un secteur qui évolue énormément depuis 20 ans, peut-être même depuis 30 ans, on a des approches qui sont vraiment différentes au fur et à mesure des années. Et ça se voit notamment avec tous les documentaires qui sont liés aux jeux indépendants qui sont sortis ces dernières années. Et voilà, du coup, on arrive sur des documentaires qui prennent un petit peu en consistance avec un recul sur ce qui se fait sur le marché, sur le développement des jeux vidéo, sur les sujets qu'ils abordent, est-ce que c'est un art, voilà, plein de sujets différents. C'est ça qui fait que les documentaires aujourd'hui sont super intéressants.
Et c'est ça qui t'intéresse en premier lieu.
Voilà, exactement.
Sur un plan technique, je retourne vers toi, papa, mais on a parlé rapidement de la technique documentaire JV, mais les principes de base de réalisation, ils sont vraiment différents ou c'est vraiment du copier-coller d'autres docu?
Le documentaire jeu vidéo va pas révolutionner la façon dont on crée des documentaires, vraiment. Comme dit, ce que je disais, le plus gros challenge quand tu réalises un documentaire sur jeu vidéo, c'est rendre vivant des séquences qui sont parfois assez statiques, en fait. Et c'est un peu le paradoxe. Et c'est aussi, là où c'est amusant, c'est que du coup, tu dois faire un effort de mise en scène pour rendre ça un peu intéressant ou voilà, penser la façon dont tu vas faire le truc, sans pour autant tomber dans le piège justement de la mise en scène omniprésente qui fait que beaucoup de documentaires parfois passent à côté du sujet parce que au bout d'un moment tu vois plus que la réalisation. Donc voilà, en tout cas pour moi la difficulté c'est ça, c'est pareil quand tu vas sur des salons, sur des compétitions, etc. T'as plein de trucs, finalement c'est des mecs qui sont assis et qui sont concentrés sur leur écran, etc. Enfin t'as cette espèce de barrière là qui peut être qu'il faut réussir à passer pour rendre le truc intéressant, parce que aussi le piège de tout documentaire c'est que dans l'absolu ça plaira forcément, enfin en tout cas a priori aux gens qui sont intéressés, mais c'est toujours mieux d'essayer de penser son truc pour essayer de capter quelqu'un qui sera pas forcément intéressé par le sujet.
D'accord. Justement, on a un tweet de Darkubi, un de nos auditeurs, au hashtag Player Club, donc n'hésitez pas à commenter ou à donner notre avis, à rejoindre les avis de nos auditeurs aussi, tous les deux, quand vous les voyez, mais Darkubi qui nous dit, la plupart du temps, le docu-JV est quand même plus des simples making-of qu'autre chose, en fait.
Oui, alors ça, on va peut-être en reparler après, mais effectivement, après, c'est...
Ce sera en deuxième partie,
mais effectivement, c'est un reproche qui est, à mon avis, assez légitime, et à la fois ce serait dommage de faire ce procès d'intention là maintenant que effectivement on commence à voir des choses qui sortent du cadre du making of, même si effectivement c'est une tendance qui est marquée malgré tout.
D'accord. Alors avant de nommer un petit peu ces documentaires, je me retourne encore une fois vers Arnaud. Ça parle de quoi depuis quelques années les documentaires JV exactement?
Comme je le disais tout à l'heure, en fait, on a beaucoup de documentaires sur les jeux indépendants, qui ont commencé à arriver en 2012-2013 avec le fameux indie game The Movie.
Voilà.
Que beaucoup de gens ont vu et qui est à mon avis un des plus connus aujourd'hui. On a eu plus récemment des petites choses comme Free to Play The Movie qui a été produit par les équipes de Valve, mm-hmm. Qui se tournent vraiment vers le côté e-sport. Effectivement, sur le côté aussi tout ce qui est création du jeu, making of. On avait toute l'histoire de Mojang aussi, un documentaire qui était sorti en 2012, qui revenait sur toute l'époque où Minecraft avait eu
son explosion,
exactement.
Gloire, oui.
Ouais, l'époque de sa gloire, juste avant qu'il se fasse racheter effectivement par Microsoft. Et on a vu des petites choses un petit peu épisodiques qui sont arrivées là ces dernières années avec un documentaire qui a été produit par Red Bull qui s'appelle Digging in the Cards. Mmh. Qui est sorti l'année dernière, et puis tout ce qui est Super Game Jam où effectivement là aussi on voit un petit peu du making of de jeux vidéo, mais sur un jeu vidéo qui est produit sur 24 heures.
Et Super Game Jam, de mémoire, ça c'est en plusieurs épisodes d'ailleurs.
En 5 épisodes, et Digging in the Cards aussi, celui qui est produit par Red Bull qui parle essentiellement de la musique en fait des jeux vidéo des époques NES, etc. Et en 6 épisodes, celui-là.
Alors, j'ai deux questions qui nous viennent aux auditeurs. Donc, encore Darkubi qui nous dit qu'il faut parler de King of Kong,
ouais,
qui est peut-être le meilleur docu JV jamais fait, selon lui.
Bah, King
Alors,
of
racontez-nous,
Kong...
c'est quoi exactement King of Kong ?
Alors, King of Kong, si tu veux, c'est l'histoire... Enfin, c'est un documentaire qui retrace les grandes gloires de l'arcade des années passées. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que... King of Kong, en fait, c'est des portraits de types qui sont complètement timbrés, en fait. Voilà, il y a la plupart des interlocuteurs, ils sont à leur façon complètement en dehors de des gens que tu peux croiser au naturel, et t'as une espèce de spontanéité, un espèce de côté étincelle qui est très présent et très mis en avant, et qui fait que le documentaire, enfin le truc, c'est super vif, et tu te dis mais et c'est paradoxalement un documentaire qui peut vraiment intéresser, je pense, quelqu'un qui s'y connaît pas dans le jeu vidéo.
Parce que ça rejoint une question qu'on a reçue de d'un auditeur tout à l'heure, de Laurent de Sega Area, qui disait justement quelle chaîne française pourrait diffuser ça aussi ? Et Arthur qui nous demande par quel documentaire commencer.
Alors, je sais pas si c'est le meilleur pour commencer, mais en tout cas c'est un truc qui est pas forcément connu du grand public. C'est un truc que les gamers ont peut-être connu à une certaine époque à une plus petite échelle, mais là c'est vraiment une facette où tu vois que effectivement le jeu vidéo c'est quelque chose de vraiment très vivant et qui peut véhiculer des trucs des émotions très fortes et des choses comme ça, et voilà, t'as un côté vraiment vraiment hyper dynamique et super entraînant, et tu te dis mais jusqu'où ça va aller. Je sais pas si c'est le meilleur pour commencer, mais c'est quelque chose qui peut séduire, voilà, même quelqu'un qui, je sais pas, qui s'intéresse un peu à la sociologie ou aux médias en général. Il y a un truc dans l'approche qui fait que tu peux accrocher même sans connaître forcément les jeux auxquels ils font référence, quoi.
En fait, ce qui est sympa avec celui-là, je me permets de rebondir là-dessus, mais notamment au niveau des personnages et du fait qu'ils soient tous un peu haut en couleur, c'est le côté. En fait, ce documentaire-là, on dirait même pas un documentaire, on dirait plutôt un film.
Il y a un côté effectivement à peine. Enfin, il y a des moments tu t'y crois plus. Enfin, c'est pas que t'y crois plus, mais tu te dis, mais il y a un côté. Ça entraîne vers quelque chose que tu t'attends pas forcément, quoi.
Ça le rend assez accessible parce qu'il est assez tourné vers effectivement une histoire avec. Voilà, une histoire, un scénario, et même s'il n'y en a pas, parce qu'effectivement c'est un documentaire, et qui le rend effectivement super accessible aux gens qui voudraient se lancer, mais pas sûr que ce soit effectivement celui-là que je recommanderais de regarder en premier.
Non, en premier peut-être pas, mais qui peut intéresser quelqu'un qui connaît pas forcément le milieu, parce que, comme dit, pour moi ça dépasse le sens strict du jeu vidéo. Enfin, il y a quelque chose. Voilà.
Il y a un fond de jeu vidéo, et c'est le socle commun du documentaire, mais c'est aussi une histoire humaine et une histoire de personne.
Oui, c'est ça. Voilà, il y a un côté. Enfin, je pense que tu peux le savourer sans avoir joué, sans connaître forcément les jeux. Après, juste un tout petit détail sur ce qu'a dit Arnaud. Le documentaire, il faut pas se tromper, a un scénario de base. C'est juste que tu le tournes. Enfin. La nature des images que tu tournes font que ton scénario, tu vas forcément l'adapter, etc. Mais de base, tu pars toujours avec une idée directrice et des grandes lignes, en fait. Sinon, enfin, c'est en tout cas, moi, c'est tel que je vois, et c'est un peu quand j'ai croisé des gens qui avaient fait des documentaires, etc. C'est une directrice qui, généralement, il faut avoir pour réussir son documentaire. C'est partir de quelque part, vouloir aller ailleurs. Après, t'as des surprises qui font que ça t'emmène complètement ailleurs, mais de base, le documentaire a quand même un scénario. Voilà, c'est juste petite précision.
Dans les documentaires, en fait, qui vous ont le plus intéressé, vous en retiendrez combien au final ? De tous ceux que vous avez pu voir, combien en retiendrez-vous, je sais pas, dans 1, 2, 5 ans ? King of Kong restera, Indie Game pour vous, ça restera quelque chose de pérenne, ou Pixel Poetry par exemple ?
Bah, je pense que, enfin, pour moi, contrairement à Arnaud, je regarde pas forcément des tonnes, en fait. C'est-à-dire que moi, j'attends que qu'on écrème un peu pour moi, entre guillemets, pour des questions de temps, puis même après, on en va reparler, mais même pour des questions de rapport au documentaire de manière générale. Généralement, je me concentre sur ceux qui sont les plus appréciés. Tu vois, j'attends qu'il y a un petit temps qui se passe et je regarde ceux qui émergent. Et après, voilà, King of Kong, Indie Games the Movie. Et Pixel Poetry aussi d'ailleurs, qui est plutôt chouette. Je pense que c'est des documentaires qui resteront, surtout que, comme dit, ils arrivent à un moment où ça commence à devenir vraiment intéressant. Enfin, c'est des documentaires qui ont en plus cette vertu d'être des documentaires pionniers. Enfin, en tout cas à leur échelle.
Alors on a d'autres titres qui nous arrivent sur Twitter, notamment Arthur Froment qui nous parle de Ecstasy of Order. Qui est un documentaire sur Tetris. Je ne sais pas si tu l'as vu, Arnaud.
Non, je ne l'ai pas vu celui-là.
Mais toi, tu m'avais parlé, quand on avait préparé l'émission, tu avais parlé de documentaire sur Tetris aussi.
Ouais, en fait, j'ai un backlog de documentaires que je n'ai pas encore regardé et celui-là en fait partie. Il y en a deux sur Tetris. Il y a Ecstasy of Order. Il y en a un qui s'appelle From Russia with Love. D'accord. Qui date de 2004. Donc, qui est peut-être une des premières dates dans la liste des documentaires que j'ai.
Et je te repose la même question qu'à papa, mais quel est le documentaire qui t'aura le plus marqué ces dernières années? Celui qui t'aura parlé peut-être le plus ou qui t'aura fasciné pour le sujet, tout simplement.
Bah, ils m'ont tous un petit peu fasciné à leur manière, bien qu'il y en ait effectivement qui soient plus sympas que d'autres. Moi, j'ai beaucoup aimé le un qui est sorti super récemment, fin d'année dernière, qui s'appelle Atari Game Over. Mmh. Qui parle globalement de la
transformation de d'infogrammes en Atari et la mort d'Atari.
Voilà, la mort d'Atari globalement. Et en fait, ce qui est vraiment sympa dans ce documentaire-là, c'est qu'il est scindé en deux parties, des parties qui s'alternent en fait toutes les quelques minutes, où d'un côté t'as des interviews des différents développeurs d'Atari à l'époque de la gloire de ce studio et de l'autre côté le mec qui réalise, qui s'appelle Zach Penn, qui est un des scénaristes du premier Avenger, fait une sorte d'exploration, on va dire, de l'endroit où seraient enterrées les cartouches d'E.T. Aux États-Unis dans une décharge.
Oui, tout à fait, ouais.
Dans le désert du Texas.
Oui, exactement. Et du coup, t'as une alternance de ces deux phases qui permet d'avoir un rendu assez dynamique et hyper intéressant sur, d'un côté, j'ai l'histoire d'Atari, de l'autre côté, j'ai la légende, finalement.
Oui, c'est à la recherche d'une légende, parce qu'au final, ils les ont retrouvés, en plus, ces fichus cartouches.
Au final, ils les ont retrouvés, et en milieu d'année dernière, on avait eu, justement, dans tous les médias, The Verge, etc., les photos des cartouches d'E.T. qui avaient été retrouvées dans cette
fameuse... Parce que c'était une fausse légende, en fait, on a toujours su où elles étaient, quelque part, on savait qu'elles étaient dans une décharge de cette ville-là, que le maire, il y a quelques années, il y a de nombreuses années même, avait décidé de bétonner complètement, poser une dalle de béton sur la décharge pour empêcher les pillards d'aller récupérer ses cartouches. Je me rappelle un reportage de James Roffel, donc le Hungry Video Game Nerd, qui avait fait toute une émission aussi là-dessus. Il a parlé très longuement d'E.T., qui reste quand même, ça a été un bon générateur de recherche et de documentation pour beaucoup de passionnés.
C'est clair, et là, comme à la fin, ils arrivent vraiment à les retrouver, il y a quelque chose d'assez magique dans le côté Mythbuster, tu vois. Ça, c'est le côté cool du documentaire, effectivement, qui fait que je pense que c'est dans mon top.
Ça, c'est dans ton top.
Ouais.
Alors, on va parler un petit peu d'autres tops, parce qu'on va partir sur les tops de la carrière de papa. Parce que toi aussi, tu es non seulement journaliste, reporter d'images, mais tu es aussi réalisateur de documentaires.
Ouais, enfin, en tout cas, j'essaye.
Et tu essayes. Alors, toi, tu as réalisé de très bons, très, très bons documentaires, je le dis, parce que je les aime, mais...
Oui, et puis parce que je t'ai menacé aussi.
Oh. Non, c'est pas moi que tu as menacé, c'est Caro. Moi, tu ne peux pas te menacer, tu n'as pas de poids sur moi. T'as du poids sur Caro et Hubert, c'est pas mon problème.
Oui, bon, Hubert, tout le monde a du poids sur Hubert. Enfin, c'est... Bref,
il l'a fait. Voilà, non, mais tu as réalisé Game Dev Story Global Game Jam, 48 heures pour créer un jeu.
Oui, je l'ai co-réalisé.
Que tu avais co-réalisé, et c'est un de nos auditeurs qui nous le dit. Je fais de la pub pour papa. Je lis Darkoubi, je fais un peu de pub pour papa, pour le doc sur une game jam pour GK.
Oui, tout à fait. Oui, c'était marrant parce qu'en plus ce documentaire, alors petit moment d'histoire, il a une histoire, c'est qu'on avait, comme on voulait le faire un an ou peut-être même deux ans avant qu'il sorte, et on avait commencé à réaliser une première fois, et on on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout parce que bah, déjà on était parti, bah, d'où l'importance du scénario, c'est qu'on était parti un peu la fleur au fusil pour découvrir la game jam. Enfin, c'était, je sais plus quelle année c'était. C'était 2009 peut-être, je crois. Et au moment où on en parlait pas forcément trop, donc on a découvert et on a essayé de tourner le documentaire en même temps. Puis finalement, c'est pas un très bon plan parce que le temps que t'incurgites le truc, que tu comprennes comment ça marche et savoir quoi en tirer exactement, ça s'est pas fait.
Ça va trop vite aussi. C'est,
ouais,
ça va trop vite. C'est énormément de tension et d'adrénaline.
Voilà, exactement. C'est... Donc le temps de tout emmagasiner, on a pas réussi à trouver la bonne formule. Et pour l'anecdote, Caroline était à ce moment-là stagiaire. C'était ma stagiaire.
C'était Stachat à l'époque.
Ouais, c'était Stachat et elle a commencé à bosser dessus. Puis on n'est pas allé jusqu'au bout. Et puis le temps a passé et on l'a refait quelques années après. Je crois 2 ans, 3 ans. Je sais plus. J'ai plus les dates exactes. Hein, je me fais vieux. Hein, c'est Alzheimer, ça nous guette tous. Et à ce moment-là, on l'a refait avec Caroline et on avait déjà une bien meilleure idée de ce qui se passait. Et puis cette fois-ci, on a pu aller au bout et donc donner le documentaire que vous avez sous les yeux.
Il y a un autre documentaire que tu as réalisé aussi, qui est ton dernier documentaire en tant que papa de la rédac de GK,
oui.
Qui est Sauvegarde en cours, ne pas débrancher, qui suit un propriétaire de magasin de jeux.
Mmh, ouais.
Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que c'était un pari un peu particulier de suivre un vendeur de jeux vidéo entre 2013-2014 à l'époque du dématérialisé et des grosses enseignes.
C'est ça exactement. Bah c'est un peu aussi le luxe que tu as quand t'as un rédac chef et un directeur, enfin un supérieur dans la rédaction qui ont l'esprit un peu ouvert et qui viennent vers toi et qui te font qu'est-ce que tu voudrais faire. Et là, du coup, justement, moi, je me suis rappelé de toutes ces jeunes années à errer dans les magasins de jeux vidéo de mon enfance, et que c'est le truc que je ne fais plus du tout aujourd'hui. Enfin, tu vois, j'ai un compte Steam avec je sais plus combien de centaines de jeux. Enfin voilà, je me suis dit, est-ce que ces magasins existent toujours? Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Et voilà, je suis parti sur juste cette envie-là. En me disant on va rencontrer telle problématique, on va sans doute avoir ça, etc. Et c'était marrant parce que encore une fois je reviens sur l'importance du scénario parce que c'est quelque chose qui est pas forcément très bien connu, très appréhendé. Mais l'idée c'est que on est parti avec une idée de séquences qu'on pensait avoir, de séquences type, et on les a eues, alors pas forcément de la même façon, pas forcément avec les propos qu'on imaginait, mais du coup voilà, on a pu structurer notre truc et c'était plutôt chouette, surtout que pour le coup le vendeur était vraiment vraiment accueillant, etc. Et puis ça permettait aussi de croiser des espèces de joueurs qu'on avait presque oublié, des types qui arrivent et qui essaient de racheter la boîte avec zéro défaut, qui veulent absolument toute la collection parfaite de trucs, enfin une espèce de rapport presque maladif
au jeu vidéo. Il y a un rapport fétichiste par moment avec les commandes qui passent au Japon pour certains clients.
Voilà, exactement. Et puis quand il arrive et qui alors crime de lèse majesté ou pas, qui demande à faire reblister sa boîte pour pas l'abîmer. C'est marrant parce que ça remet un peu cette espèce de côté charnel que t'as avec parfois le jeu vidéo, mais moi que j'ai avec les films et les CD. Enfin, moi, je continue d'acheter des disques et des vinyles, hein, donc j'ai toujours ce côté-là très très charnel, voilà, très très connecté directement à l'objet, et que on avait peut-être un peu oublié, enfin en tout cas moi que j'ai un peu perdu de vue, et ça m'a fait plaisir de retrouver ça, quoi.
Et c'est ça qui te fait sélectionner aussi tes sujets, peut-être ce rapport à l'humain. Et qui se rapporte peut-être aussi à l'objet quelque part, à la pérennité.
Bah en fait moi, si tu veux, je choisis mes sujets parce que je pars simplement d'une envie, c'est-à-dire voilà, moi qu'est-ce qui m'intéresse, et j'essaie de faire un truc dessus, c'est-à-dire que je j'essaie pas forcément de raisonner complètement sur le truc, c'est ce que ça va parler aux gens, est-ce que ça va être intéressant ou quoi que ce soit, mais voilà, j'essaie de m'interroger sur les trucs qui moi me touchent personnellement. Et comme dit, oui, le jeu vidéo, enfin c'est une industrie, surtout quand tu bosses pour un gros site comme Gamekult, où t'as des news toute la journée, t'es dans le flot d'informations, tu vois, t'as pas forcément le côté reculte que tu peux avoir.
T'as la tête dans le guidon.
T'as la tête dans le guidon. T'as des tests à faire à côté. T'as des trucs. Enfin, t'as un côté voilà, tu dois délivrer de l'information parce que c'est la base de ton métier. Et justement, le documentaire, on était parti sur ce genre de choses pour justement avoir cet espace de recul qu'on peut pas toujours avoir. Alors après, c'est réussi ou pas, c'est pas la question. Mais c'était ça, c'est essayer de repenser un peu la pratique du jeu vidéo dans ce qui nous a fait. Donc ce qui a fait qu'on a aimé ça et qu'on a finalement fini par travailler dedans quoi, parce que parfois tu perds le truc de vue puis tu sais plus où ça en est, et même parfois t'as des conceptions fausses sur les gens qui t'entourent parce que t'es aussi dans ta bulle, t'as aussi des préoccupations qui sont pas forcément les mêmes. Donc voilà, ça permet en tout cas moi tel que je le conçois c'est d'avoir une vision un peu plus globale et de rencontrer différentes expériences et parfois d'avoir des surprises sur des gens qui pratiquent le jeu vidéo de façon ou à laquelle tu t'attendais pas, quoi.
Alors, je vais faire un petit point Twitter, parce qu'on a quand même pas mal de tweets qui nous arrivent. Bon, t'as les boules qui hurlent à la collision, parce que Darkubi est modo sur GK et que tu travailles pour GK, donc il appelle le jeu de la chips. GLDO 180 BPM qui nous dit, on n'a pas parlé de Game Dev Stories, par exemple. Ou c'est un documentaire que je n'ai pas encore fini de voir, parce que je l'ai regardé en plusieurs fois. J'avoue que j'accroche assez peu à l'ensemble des documentaires faits depuis quelques années. Mais il y a énormément de documentaires, et j'ai vu passer un tweet tout à l'heure de Laurent, aussi de Sega Area, qui nous demandait si on comptait parler des documentaires qui diabolisent le jeu vidéo.
Alors,
ça, c'est important aussi, parce que c'est un autre côté, c'est une autre facette du documentaire.
Alors j'ai vu le tweet et depuis tout à l'heure j'essaie de réfléchir à des documentaires spécifiques qui seraient sur ce sujet-là.
Des documentaires ou des reportages peut-être.
Oui.
Arnaud, t'en as peut-être vu de ton côté aussi.
Bah des reportages qui diabolisent le jeu vidéo, oui.
Oui, des reportages t'en as, ouais. Mais après ouais. des docus, c'est pas aussi institutionnalisé. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que moi j'ai. Mais ouais. Bon, voilà. Après, on peut parler effectivement vite fait des reportages en question. Vas-y Arnaud, je te laisse embrayer.
Ah bah tu pas facile.
N'aie pas peur, tout va bien.
Non mais en fait les documentaires qui diabolisent le jeu vidéo, je les retiens pas forcément, donc j'ai pas de.
On va dire qu'il y a beaucoup de reportages assez fréquents. Dès qu'il y a ne serait-ce qu'une tuerie dans une école, on remet souvent le jeu vidéo dans des reportages, même des mini documentaires dans des émissions sur l'addiction par exemple au jeu vidéo. Ouais. Les problèmes que ça peut susciter. Et ça devient, c'est à terme, ça se tarie petit à petit, mais on en a eu énormément depuis une quinzaine d'années.
Bah, c'est un phénomène quand même. Ça fait partie d'une espèce de chronologie des médias, pour reprendre un terme du CNC. C'est qu'en fait, c'est que le jeu vidéo, c'est un média jeune qui arrivait après les autres et qui arrivait à un moment donné où les autres étaient des institutions. Et donc, fatalement, c'est un truc que les gens qui ont l'habitude des médias plus institutionnalisés connaissent pas forcément, donc ils se posent des questions. Ils se posent des questions, ils disent que ça va changer des choses, que c'est mauvais. Enfin, c'est le truc que t'as eu, le cinéma a eu le droit au même procès.
Le rock'n'roll.
Ouais, voilà, non mais exactement. Donc, finalement, moi, je prends pas ça comme une attaque spécifique contre le jeu vidéo, parce qu'il y a aussi ce côté un peu chevalier blanc, défenseur à tout craint du jeu vidéo, qui est parfois un peu facile et pas toujours très utile, parce que la plupart du temps, enfin, voilà, ça fait partie du jeu.
Se poser en défenseur sans recul, c'est pas non plus la.
Non, je pense pas. Après,
posture à prendre.
Après, faut rester vigilant, c'est sûr, mais sauter sur l'occasion à chaque fois, c'est pas forcément non plus. Il y a un équilibre à trouver, je pense. Comme dit, faut plus être dans la pédagogie et surtout attendre que la génération de gens qui a grandi avec les jeux vidéo prennent le pouvoir entre guillemets, et petit à petit, ça va s'institutionnaliser tout seul et ça va rentrer dans les mœurs. Voilà, enfin, les codes du jeu vidéo, la culture du jeu vidéo, petit à petit, on le voit de plus en plus. Un peu partout, finalement, infuse le reste de la société, et au bout d'un moment, c'est les reportages diabolisants, n'est-ce pas, gratuitement, finiront eux-mêmes par disparaître. Après, ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours des questions qui seront soulevées, parfois qui peuvent être légitimes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a parfois le jeu vidéo, comme tout mode d'expression, est parfois aussi dans des excès, dans des choses comme ça, et voilà, c'est pas parce qu'on aime un média qu'on n'a pas le droit de se poser des questions dessus, quoi.
D'accord.
Ça mériterait d'être institutionnalisé, en fait, d'avoir des documentaires avec une prise de recul qui serait la même que celle qui est prise par les gens qui font des documentaires aujourd'hui, en fait.
Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait.
Et une question de Chakma qui vient de passer, qui est, alors vous êtes très très vous êtes très engagé sur le hashtag Player Club ce soir, mais Chakma qui pose la question, comment finance-t-on un documentaire sur le jeu vidéo, un monde pour lequel il existe beaucoup de préjugés en France?
Et ben alors,
toi pour GK, ouais. Ça a été le budget GK et les premiums.
Ouais, tout à fait. Ouais,
nous c'est le documentaire. Nombre de documentaires sont passés avec le Game Premium.
Exactement, voilà. Donc, bah c'est toujours pratique parce que du coup là, tu t'adresses à un public de passionnés avec une certaine masse malgré tout qui te permet de faire les choses. Après, effectivement, oui, comme il y a beaucoup de préjugés et de choses comme ça, c'est pas des sujets qui sont encore une fois institutionnalisés et du coup qui ont du mal à séduire entre guillemets des diffuseurs de grande envergure. Voilà, après comment tu le finances, bah tu vois le modèle les documentaires américains ou anglo-saxons, en tout cas il y en a pas mal qui passent par des systèmes de Kickstarter, voilà,
Kickstarter, des Patreon,
ouais, voilà,
genre de choses,
ce genre de choses où finalement c'est un peu la même idée que le premium, sauf que c'est ouvert à tout le monde, ou voilà, où tu peux financer des documentaires sur des sujets qui t'intéressent. Voilà, après le truc, je sais pas, si je suis pas persuadé que ce sera viable sur le long terme. Ça restera peut-être des micro-phénomènes, mais en tout cas aujourd'hui c'est la façon la plus simple, ou voilà l'autre possibilité, on va revenir peut-être dessus en deuxième partie, c'est le documentaire financé par les éditeurs.
Voilà, on va revenir là-dessus en deuxième partie, mais de suite on va s'écouter un petit morceau de Houdini Roadshow. On va s'écouter Down in the City, on revient dans à peu près 4 minutes pour le Player Club. We'll be right back.
de 21h à 22h, le Player Club.
Et nous sommes de retour pour le Player Club, il est 22h35 et ce soir en compagnie de Papa et de Arnaud, on va parler des documentaires JV et on va se faire un peu l'avocat du diable aussi, un petit peu, pour changer messieurs. Alors on a dépeint un petit peu ce qu'était un documentaire JV, n'est-ce pas ? Mais maintenant on va se poser des questions sur pourquoi. Alors je serai l'avocat et à vous je serai l'avocat général et à vous
et je serai
de
le diable,
prouver...
c'est ça ?
Non, je suis le diable. Vous à vous de me donner votre avis sur la première question. Mais est-ce que les docu JV, donc ces documentaires dont on a parlé en première partie, est-ce qu'ils sont réellement nécessaires aux médias ?
Alors nécessaire, je pense pas que le mot soit.
Est-ce qu'ils apportent quelque chose ?
Alors ils apportent quelque chose, oui. Je pense qu'indéniablement ils apportent quelque chose parce que comme on l'a dit, ça permet d'avoir parfois du recul sur certaines choses, même d'un point de vue purement didactique, d'apprendre comment est-ce qu'on fait un jeu. Enfin, ouais, il y a des trucs comme ça que tu peux apprendre avec des documentaires jeux vidéo. Ça peut apporter ça. Voilà. Après, il y a comme toute médaille, il y a des revers aussi.
Arnaud, est-ce que tu trouves que les documentaires sont vraiment utiles ?
Alors utile, oui. Moi, je rejoins complètement l'avis de Papa sur le sujet. Surtout sur le côté, bah tu vois, enfin le côté développeur, comme on disait, il y a de plus en plus de documentaires sur les jeux indépendants, par exemple.
La découverte du développement, voilà, du travail, ce genre de choses.
Et ça permet vraiment d'apprendre un petit peu comment on fait un jeu vidéo au-delà du média en lui-même et de savoir quels sont les enjeux, quel est le poids de stress qui peut peser sur les épaules d'un développeur indépendant. Je pense à Phil Fish dans
Les larmes de Phil
Fish. Voilà, ce genre de choses. Et tu vois, même si ça a un côté un peu pathos, notamment dans ce documentaire-là, c'est important, je pense, de si t'es passionné, tout du moins. Alors après, pour le grand public, je sais pas si c'est très très important de voir ce genre de choses. Mais voilà, de savoir quels sont les enjeux tout simplement du secteur, quoi.
Alors on en parlait avant de revenir en antenne pendant la pause musicale, mais Taliboul justement lit dans nos pensées, ce qui nous parle justement des diffusions de game over, de let's play Arte qui diffuse beaucoup qui diffuse des commentaires, des documentaires jeux vidéo. Il y a France 4 TV aussi qui a diffusé comme State of Play. Donc t'as les boules, vous voyez, il est raccroché à nous sur le conducteur. Je sais pas comment il fait.
Mais oui, justement, on disait, Arte, après c'est aussi le luxe qu'a Arte, c'est que c'est une chaîne culturelle, le genre de truc qu'on voit pas forcément beaucoup dans le PAF et qui a toujours aimé les sujets de marge ou de pointe au choix, et du coup le jeu vidéo ça se place complètement là, c'est-à-dire que comme je disais, on est encore au stade où le jeu vidéo a un poids, mais pas encore un poids suffisant pour être une institution, pour être un truc digéré par tout le monde, et du coup Arte, c'est, je pense, assez naturellement s'approprie ces sujets et les attaque souvent par l'angle culturel aussi, et fait pas mal de choses et propose même des co-développements de jeux. Je pense notamment à ceux qui l'avaient vu, le documentaire Fort McMoney, qui est en fait un documentaire sur une ville au Canada avec une gestion très particulière d'économie, qui s'accompagnait d'une simulation d'une ville idéale entre guillemets au Canada, avec différentes problématiques qui sont issues. Tu avais un recoupement, une espèce de synergie qui se faisait et qui était pas inintéressante.
Ouais, c'est vrai que nous, on parle beaucoup depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des documentaires qui sont diffusés sur des plateformes du type GOG ou GOG, je sais pas comment vous
prononcez. Oui, GOG ou même Steam avec Free to Play, par
exemple. Ou même Steam. Mais effectivement, en France, il y a Arte qui fait Game Over et Let's Play, typiquement, c'est deux bons documentaires que vous pouvez regarder et qui sont diffusés aussi du coup sur Arte, quoi.
Et donc il y a des chaînes de télévision, donc des vraies chaînes TNT officielles entre guillemets, des véritables chaînes de télé, qui sont, on va dire, relativement mainstream, qui s'intéressent aux jeux vidéo aujourd'hui et qui le traitent avec un angle réellement culturel.
Oui, comme dit, ça commence à arriver, et tant mieux. Et puis, enfin, comme dit, après, c'est, encore une fois, je pense que c'est assez naturel aussi. Et puis voilà, qui sait, peut-être qu'un jour on en aura plus, on aura plus souvent, ou en tout cas, on aura peut-être des émissions. Voilà, c'est aussi, tu vois, typiquement, c'est le genre de truc un peu paradoxal, c'est que t'as pas d'émission de jeux vidéo sur les trois grandes chaînes principales.
Il y a eu un documentaire qui est passé sur France 2 d'Envoyé Spécial il y a quelques mois de mémoire. C'est vrai que ça se fait assez rare, en fait.
Oui, bah voilà. Bon, après,
ou après ces documentaires sur des events, genre voilà, la World Game Cup, enfin les conférences de Cannes avec le tournoi de jeux de baston de Cannes, ou des événements comme la Paris Games Week surtout, qui a son lot de reportages tous les ans.
Souvent
sur les grosses chaînes.
Souvent la suite de la diffusion de documentaires sur Arte et le fait d'institutionnaliser le jeu vidéo, c'est le reportage sur les grandes chaînes, je pense. Et ça, on devrait avoir... J'entends des reportages qui ne diabolisent pas forcément le jeu vidéo, mais qui vont plutôt essayer d'apporter quelque chose aux audiences de ces chaînes-là, quoi.
Justement, ça amène quelque part, tu vois, Arnaud, tu m'aides parfaitement dans la transition, mais...
un vrai professionnel.
C'est un véritable pro. Aujourd'hui, la plupart des documentaires réalisés dans le monde du jeu vidéo sont vraiment, vraiment extrêmement ethnocentrés. On peut dire que c'est de l'ethnocentrisme. C'est le média qui se regarde un peu le nombril. Est-ce que justement le fait que ce soit fait par des passionnés ou vraiment des gens qui sont très investis dans le milieu du jeu vidéo, est-ce que ça nuit à l'expansion de documentaires beaucoup plus sombres ou plus dirigés vers l'investigation, c'est-à-dire des choses qui tendent à révéler par exemple des catastrophes? Tu as parlé du documentaire sur Atari, mais ça peut être sur d'autres studios qui sont... par exemple, je pense à un documentaire qui serait sur la fin de THQ par exemple,
ouais,
qui raconterait la mort des studios de manière assez crue peut-être.
Je pense qu'on manque effectivement de ce genre de choses, parce que là, on a que des passionnés qui font, voilà, ils adorent les jeux indépendants, donc du coup, ils font un documentaire super joli avec une super BO sur le jeu indépendant.
C'est beaucoup d'amour et de pixels,
voilà,
en fait.
Exactement, exactement. Bah, tu regardes Pixel Poetry, c'est exactement ça. Et il y a un côté, effectivement, on aime, on love le documentaire, mais on n'a pas un petit peu le Michael Moore, finalement, du jeu vidéo, qui va aller chercher la petite bête, qui va aller embêter les éditeurs pour savoir comment telle chute de studio s'est déroulée, quels sont les plans marketing pour vendre plus d'Assassin's Creed, j'en sais rien, tu vois. Et ce serait vraiment intéressant, et aujourd'hui on n'a pas ça, mais je pense que ça devrait arriver au fur et à mesure que des gens qui ne sont pas forcément connectés aux jeux vidéo au départ s'intéressent justement à ce domaine et à cette culture-là, quoi.
Ça t'intéresserait, bah après, papa, de ton côté?
Bah oui, pardon, après, bah justement, non, mais j'ai rebondir dessus, c'est que après, ce genre de choses, ça existe sur le papier. Je pense notamment à l'excellent bouquin de l'ami Ned Sabes sur les dessous de Call of Duty.
Oui, le livre de Ned Sabes, oui, ouais, qui est disponible.
C'est
un peu de pub, mais qui est disponible, oui, sur Amazon, par exemple. Vous pouvez l'acheter.
Exactement.
Pour quelques euros, qui est un excellent bouquin.
Excellent bouquin, très
qui
bien écrit.
Des années de recherche, hein, parce qu'il avait commencé il y a très longtemps et diffusé à l'époque,
voilà,
des barres de vie.
Par un homme de talent, n'est-ce pas? Et
oui.
Du coup, voilà, n'est-ce pas? Tu as remarqué? Donc, c'est des choses qui existent sur le papier, mais le truc, c'est que, en tout cas, de l'expérience que j'ai sur Gamekult, c'est des sujets, ben, du manière générale, hein, c'est des sujets qui demandent beaucoup de temps, et donc qui coûtent un certain prix. Et si tu rajoutes par-dessus de la vidéo, ça coûte encore plus cher. C'est qu'on va dire, mais
il y a la mise en œuvre de ne serait-ce que la location de matériel s'il y a besoin,
oui, voilà,
les déplacements,
l'enquête en elle-même qui demande beaucoup de temps. Enfin, comme tu disais, Ned Sabes, il a passé beaucoup de temps à préparer son truc, à l'écrire,
années, oui.
Voilà. Et c'est des trucs aujourd'hui. Tu parlais ethnocentré, les documentaires de jeux vidéo intéressent effectivement quasiment exclusivement les
amateurs de jeux vidéo,
voilà, une frange de passionnés, etc. Et rentabiliser des projets comme ça, qui sont très intéressants au demeurant, faut avoir soit les couilles de quelqu'un qui dit bon ben on le fait, soit trouver un modèle économique qui pourrait sustenter ce genre d'initiative, quoi. Mais effectivement ça manque, mais je pense que ça va finir par venir. C'est le temps que les choses se mettent en place. Voilà, c'est un truc qu'on avait espéré au moment du Gamersgate, c'est que les gens prennent un peu conscience que justement tout n'est pas qu'amour et pixels. Bon, c'est pas forcément parti de la bonne direction, mais je pense que ça finira par arriver, quoi.
Il y a Taleboul qui survole et qui soulève pardon un problème réel, c'est le problème des docs JV ou d'émissions à la télé, ce sont les règles du CSA. Pas de PEGI 16-18 aux heures de grande écoute, donc du coup ça coupe aussi un petit peu le grand public jeu
alors,
vidéo.
Alors après, tu peux faire un documentaire de jeux vidéo sans montrer des images de jeux violentes ou des choses comme ça, ou il y a toujours moyen avec le montage de faire un truc qui peut passer. Enfin, j'ai envie de dire même peut-être même les meilleurs documentaires de jeux vidéo, c'est peut-être ceux où t'as le moins d'images de jeux vidéo dedans. Et je dis pas ça parce que j'en mets quasiment pas dans les miens, mais t'as pas forcément besoin justement de montrer, sauf si ton propos c'est la violence ou quoi que ce soit. Mais voilà, tu prends l'affaire de Call of Duty. Je pense que t'as moyen de monter un truc sans montrer des images de bataille de Call of Duty avec des jaquettes, des trucs comme ça. Enfin, je pense pas que ce soit la vraie barrière, tu vois.
D'accord. Mais du coup, ça m'amène à une autre question. On a parlé justement des différents documentaires. Beaucoup de documentaires aujourd'hui, on en a reparlé tout à l'heure, mais ils sont faits par ou pour des développeurs. Je pense à Devolver, Valve, Blizzard.
Ouais, tout à fait, ouais.
Est-ce encore du documentaire pour vous, ou est-ce que c'est un nouvel outil marketing, ou simplement un outil marketing plus qu'un documentaire?
Comme je te disais, c'est que c'est un nouvel outil marketing. Non, c'est un outil marketing qui a existé depuis un certain temps et qui a été repris par le jeu vidéo. Et effectivement, on arrive à ce que je disais en première partie, c'est que je regarde pas forcément beaucoup de documentaires et encore moins de making-of de cinéma, alors qu'on pourrait croire que c'est le genre de truc. Parce que finalement, dans beaucoup de cas, c'est très stéréotypé. Et finalement entendre des types se passer des pommades et choses comme
ça. Raconter toujours la même chose aussi, parce que les making-of sont déstructurés, les storyboards sont les mêmes des uns aux autres.
C'est ça, voilà. C'est au bout d'un moment, ça m'intéresse plus, quoi. Et ce que je disais, et moi, ce qui manque, enfin mon modèle de documentaire absolu, c'est Some Kind of Monster sur Metallica.
Documentaire qui retrace.
Voilà. En fait, pour raconter vite fait, au départ, c'était un making-of comme un autre sur l'album de Metallica Saint Anger, donc sorti en 2003. Sauf que il s'est passé un truc qui est que le chanteur est parti en cure de désintox au tout début de l'enregistrement, et ça fait voler en éclats le groupe. Et à ce moment-là, les mecs, ils ont continué à filmer, et surtout, ils ont été autorisés à diffuser le truc, ce qui est assez hallucinant quand tu vois le résultat. Et là, il se passe un truc, c'est-à-dire que t'es à la fois dans le mécanisme de promo, parce qu'il parle du nouvel album, et à la fois tu découvres des trucs.
C'est un striptease chez Metallica.
Les types sont pathétiques et tout, mais en même temps t'apprends plein de choses sur. Enfin, tu comprends plein de choses sur la façon dont ils font leur musique, et c'est le genre de truc qui aujourd'hui manque un truc sur un truc qui se passe vraiment mal et qui hésite pas, voilà, qui est pas sous les phares, au final ça finit machin, et voilà, il manque ce truc qui va au fond du truc et qui va gratter et montrer que c'est une aventure humaine, et comme toute aventure humaine, au bout d'un moment t'as des moments où t'as envie de tuer quelqu'un, quoi.
Arnaud, je te repose la question, mais ces documentaires de Devolver, Valve, c'est quelque chose qui te parle, ou tu t'orientes plus vers des documentaires qui sont un peu plus intimistes, ou qui sont faits en marge justement des développeurs et de cette plus ou moins fausse promotion pour leur école?
Moi, je regarde un petit peu tout, en fait. J'essaie de pas trop m'imposer de limites par rapport à ça, ce qui permet aussi de savoir ce qui est bon et ce qui est moins bon. Et typiquement, ce que fait Devolver ou ce que peut faire Valve sur Free to Play, c'est des choses qui sont assez bien réalisées, assez intéressantes, où effectivement t'as une histoire qui est racontée, qui est intéressante, avec des vraies infos. Et à côté, tu vas avoir des choses comme, je pense à un documentaire que j'ai pas du tout aimé pour le coup, qui est World of Warcraft, le documentaire qui s'appelle Looking for Group, qui est grosso modo une histoire de World of Warcraft au fil des extensions.
D'accord.
Et voilà, là-dedans, t'as que des développeurs de World of Warcraft qui parlent. Tu sens que c'est hyper contrôlé, tout ce qui a été écrit, etc. Et t'as pas cette prise de recul qui fait que ça va être intéressant, et t'as vraiment l'impression.
Au final, tu l'as senti comme une histoire assez froide, en fait.
Ouais, t'as l'impression que c'est genre, regardez, on a beaucoup, beaucoup travaillé pendant 10 ans sur World of Warcraft. Allez-y, continuez, parce que là, on a vraiment plus de thunes, ça commence à descendre le nombre d'abonnés. Donc, allez-y. Faut pas que ça retombe trop, quoi. Donc voilà, t'as ce côté-là qui se ressent. Et après, bon, ça dépend de la réalisation, je pense. Valve, je trouve que le documentaire de Valve, moi, je l'ai vraiment trouvé excellent, à part sur deux trois petits aspects, micros aspects, notamment sur les ce qui anime les trois joueurs qu'on suit dans le documentaire et qui veulent tous les trois gagner l'International
Cup, qui est, ouais, pour les auditeurs, c'est le tournoi annuel de Dota 2 organisé par Valve, où les joueurs payent de leur poche. Valve met une partie du prize money et les joueurs achètent sur Dota un petit ticket pour l'International avec ce qu'on appelle le compendium, qui est un livre qui permet de faire des paris et de gagner différents objets, et donc on suit trois joueurs de Dota 2 qui vont faire d'International avec leurs équipes, qui est un tournoi qui se déroule, qui est en cours d'ailleurs, elle a commencé début mai, et ça se terminera normalement fin juillet, si je me trompe pas.
Donc là, les motivations de chacun d'entre eux peuvent être plus ou moins nobles, et du coup tu sens qu'ils ont essayé vraiment d'aller raccrocher des histoires, je pense notamment au joueur asiatique, je me rappelle plus de son nom, mais voilà, qui veut récupérer son ex. C'était un petit peu tiré par les cheveux, et bon, voilà.
C'est la scénarisation dont parlait papa tout à l'heure.
Voilà, exactement. Tu sens que parfois ils sont un petit peu à côté, ou qu'ils sont allés se raccrocher la charrue histoire d'avoir quelque chose, avoir un petit peu de consistance, et ça tombe un peu à plat, quoi.
D'accord. Il nous reste deux questions avant de terminer l'émission et de passer la main à nos amis de PLS qui attendent très 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 à côté de nous au show. Mais le public est demandeur quand même de ce genre de documentaire. On voit le succès qu'ont pu avoir Indie Game The Movie ou même Super Game Jam. Est-ce que ce succès est selon vous mérité vraiment, ou est-ce que ça tient plus à la médiatisation interne aux médias, c'est-à-dire les sites de JV parlent des documentaires, donc les gens vont voir le documentaire? Ou simplement les gens découvrent qu'il y a un documentaire d'une manière ou d'une autre et ça les intéresse et ils vont vers ces docus, justement.
Je pense que là ça marche parce que, comme dit, on est au moment où on commence à avoir des documentaires vraiment intéressants, et surtout, comme le signalait Arnaud, bien réalisés. Enfin voilà, des mecs qui, tu sens qu'ils mettent les moyens pour que à l'image ça passe bien, etc. Donc c'est des contenus que t'avais pas avant, typiquement, vraiment. Donc l'intérêt, il est là. Après, à savoir si ça va durer, c'est une question de sujet. Est-ce que finalement on va pas se répéter, est-ce qu'on va pas tourner en rond, et c'est peut-être à ce moment-là que justement on verra apparaître les trucs un peu plus dark, un peu plus sombre. Voilà, il y a un internaute qui parlait justement grand documentaire raté, quoi. C'est le documentaire sur le développement du Duke Nukem Forever, quoi.
Oui,
c'est
par
un sujet.
Exemple. C'est 11 ans de développement, voilà. C'est l'abandon par les développeurs, la reprise par Gearbox qui l'a confié une boîte.
Et c'est toute la chute d'une boîte qui était adulée.
Et c'est la chute d'une légende aussi.
D'une légende, voilà. Et là, il y a vraiment des sujets, mais qui sont pas forcément sexy, parce que justement, enfin, c'est pas qu'ils sont pas sexy, mais comme c'est un truc où tu vas forcément dire du mal du produit, entre guillemets, c'est peut-être pas encore prêt, mais il y a encore de la matière, mais je pense que du coup ça va venir par la suite.
Je pense que le média est encore trop jeune pour pouvoir se permettre, justement, comme disait Taleboul sur Twitter, #leplayerclub, il parlait justement de Michael Moore ou d'un Morgan Spurlock qui ferait un documentaire sur le jeu vidéo, justement. Quelque chose d'un peu plus dur, justement, comme je le disais en début de deuxième partie, mais quelque chose d'un peu plus sombre ou dirigé vers l'investigation, quoi.
Moi je pense que on a juste ouvert le champ des possibles et que le meilleur est à venir.
Oh, c'est magnifique. C'est beau, tu dis des belles choses.
T'as vu ça, hein?
C'est beau. Et toi, Arnaud, tu penses que ce succès, tu penses exactement comme papa, ou tu as un avis un peu différent sur la question? Toi qui es passionné, justement, comment tu es venu au documentaire? Par les médias, ou c'est en t'intéressant justement aux jeux vidéo, petit à petit t'as digué sur internet pour trouver ta cam, en fait?
Ma cam.
Tu as creusé les internets sombres pour trouver ce qui te plaît.
En fait, comme je te dis, je regarde pas que des documentaires sur des jeux vidéo, je regarde un petit peu sur du comics, sur du cinéma, sur plein d'autres choses, pas trop Animal Kingdom Voyage, mais et du coup, voilà, je suis arrivé sur le documentaire jeux vidéo, qui a permis justement d'apprendre plein de choses sur différents sujets, et aujourd'hui, sur ces sujets-là, je pense qu'on commence déjà à tourner un petit peu en rond, en fait, retracer l'histoire d'un jeu vidéo. Parler du développement de jeux indépendants, voilà, il y a déjà eu quelques documentaires là-dessus. Le documentaire sur le jeu vidéo globalement, en fait, il y a un documentaire qui est sorti très récemment qui s'appelle Video Games The Movie, que j'ai pas vu mais qui apparemment est très mauvais. On commence déjà, le serpent commence déjà à se mordre la queue, en fait, j'ai envie de dire.
Oui, c'est les retours qui sont pas fameux pour l'instant de Video Game de Movie. C'est un peu comme tu sais, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est
voilà, on a
c'est l'ethnocentrisme poussé à son extrême au final.
Voilà, comme a dit Arnaud, c'est des sujets qu'on a déjà traités. Et du coup, s'ils se remettent à retraiter les mêmes choses, enfin, au bout d'un moment, ça a forcément coincé.
Mais l'avantage aussi, c'est que le jeu vidéo, finalement, c'est un secteur hyper dynamique. Il y a plein de choses qui vont arriver. Là, je pense notamment à tout ce qui est réalité virtuelle, etc. Il y a peut-être des nouvelles, ça va sûrement amener des nouveaux sujets. Je pense, enfin, il y a plein d'autres choses, hein, mais et du coup, effectivement, ça va nous permettre d'avoir des bons documentaires ou des bons sujets de reportage à se mettre sous la dent dans les prochains mois, les prochaines années.
D'accord. Et donc ça m'amène. Mais vous êtes formidable en transition ce soir. Vous m'aidez beaucoup en fait, vous êtes des amours. Je vais vous garder avec moi pour la semaine prochaine. En fait. Mais une dernière question. Selon vous, est-ce qu'on va voir arriver à l'avenir une marée de docu-JV ou est-ce que doucement ça va se restreindre à des opérations ponctuelles? On va revoir des documentaires de Devolver, de Valve, de Blizzard. Est-ce que ça va s'atténuer en fait? Est-ce que c'est un peu comme tout dans le jeu vidéo et même la communication générale? On a des gros pics de buzz, et puis petit à petit, ça s'étiole, et puis les gens s'en désintéressent, et ils oublient. Vous le voyez comment, vous, cet avenir du docu-JV?
Bah, moi, je pense que ça va forcément un peu se pastasser, mais en tout cas s'harmoniser. Je pense que tu vas avoir t'auras toujours les docus, voilà, le nouveau Battlefield, c'est génial, nouveau truc, c'est mortel, on peut lui donner un coup de pied en sautant, ok. T'auras toujours ce genre de contenu, mais qu'après, du coup, les vrais docus intéressants vont peut-être se faire plus rares, mais sans doute plus profond, parce que les sujets tous les sujets qui ont été traités, ils ont déjà été faits, donc on sera obligé d'aller vers des trucs plus pointus au fur et à mesure, quoi. Donc c'est un truc qui va s'installer petit à petit, mais que on va finir par creuser et avoir une offre plus intéressante sous toute la marée de trucs un peu inintéressants, quoi.
D'accord.
Ouais, ça va se démocratiser, hein.
Tu le penses vraiment, Arnaud, une démocratisation de ces documentaires dans l'avenir?
Ouais, je pense que la qualité sera plus importante à l'avenir et que du coup on en aura sans doute un petit peu moins. Et là, les années 2012-2014 ont été, à mon avis, un petit peu fortes en termes de nombre de documentaires qui sont sortis sur cette période-là. Et qu'on retrouvera. En fait, ça dépend des sujets, ça dépend de ce qui va arriver finalement en termes de technologie, en termes de licence, en termes d'ouverture aussi, parce que je voyais sur Twitter tout à l'heure quelqu'un qui parlait de l'ouverture des éditeurs sur les informations qu'ils pouvaient donner, etc. Peut-être que si quelqu'un arrive à creuser auprès d'un Ubisoft ou d'un Electronic Arts sur un sujet donné, sur un jeu vidéo, voilà, sur un flop, sur une histoire à couvrir, là, dans ce cas-là, ça donnera lieu à des bonnes choses. Après, tout dépendra de la réalisation et du marketing qui sera derrière pour faire en sorte que ce documentaire-là soit accessible au plus grand nombre et pas seulement à la locomotive que sont les joueurs et les passionnés.
D'accord. Mais messieurs, on va accueillir quelqu'un. Est-ce que vous êtes là, Kokobé, les mecs de PLS, messieurs, êtes-vous là?
Oui, monsieur Fox, comment allez-vous?
Bonsoir, mon Kokob, bonsoir, les gars de PLS.
Oui,
alors, vous allez parler de quoi ce soir, les enfants?
Alors, aujourd'hui, on reçoit un petit ami de Jean-Luc Gamer qui s'appelle Kokob aussi.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Je suis GE2.
Oh, tu es Etienne Fouillade.
Hey, les kids.
Fouillaya.
Alors, la team GE Fox, monsieur Fox, je suis très déçu de votre comportement.
Mais oui, je ne suis pas d'accord, monsieur. Non, cela ne va pas.
Monsieur Fox, tenez-vous. Sachez que nous sommes rentrés dans une phase de joker et que chaque membre de PLS présente les uns après les autres. Donc ce soir, c'est GE2, un peu de respect.
D'accord, pardon. Vous jokerisez comme vous voulez, j'étais pas au courant, je suis désolé.
Bravo, je suis déçu de votre comportement, monsieur Fox.
Non, là, je suis déçu aussi.
Un amateur.
Amateur, on est tellement d'accord. Mais on l'aime quand même, Fox, c'est ce qui fait son petit charme.
Bon, on n'a pas le choix en même temps, non, je crois.
on le veut bien quand même, on l'aime bien.
Vu qu'il me reste 40 secondes et que vous me détestez déjà tous, il me reste à remercier mes invités pour ce soir quand même. Papa, merci.
Bah, merci à toi
pour
l'invitation.
On te retrouve sur Gamekult avec 24 FPS et puis
tout
sur ton
fait.
Twitter. À JK Plugin Baby.
Voilà, pour dire du mal de plein de gens, dont Hubert.
C'est ça, et puis il me reste à remercier aussi Arnaud, ARNDKR sur Twitter et sur ton site lecrunch.fr.
Yes, merci beaucoup.
Et je vous remercie à vous, amis auditeurs, qui êtes restés pour cette émission pendant une heure et qui allez subir PLS maintenant. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @leplayerclub et pendant les émissions sur le hashtag #leplayerclub. Et on se retrouve la semaine prochaine. Le Player Club est une émission produite et réalisée par Radio JV. On se retrouve lundi prochain sur Synops Live, là où on est actuellement, et 24h sur 24 en streaming, téléchargé en podcast sur Radio JV, radiojv.com. La semaine prochaine, ce sera The Witcher, le sujet principal, et vous m'aurez encore comme punition, comme animateur. Je vous fais des bisous, je vous dis au mois prochain. Maintenant, ça va être l'heure de Passe le Stick.
Et oui, mon cher Fox, alors on reste un peu en GK, parce qu'on a un invité qui nous vient un peu de là-bas, il s'appelle Frédéric Lu, c'est ça?
Oh, et Trunks! Trunks le cyberfoureur.
Mais oui, salut mon petit Fox, comment
vas-tu? Des bisous mon Trunks.
Ça va, ça fait super plaisir de te parler. Est-ce que papa est encore en ligne?
Oui, non, c'est... papa il s'est déco comme en FDP.
Ah ça y est, il a vu que j'arrivais, il s'est barré, c'est dommage.
Il s'est déco FDP.
Voilà, il me manque énormément et voilà, je voulais faire un gros bisou.
Eh ben tu lui enverras des mails très, très avec bien, des voilà. Photos de Jackie Chan et de Brett Ratner, il kiffera.
Ah, ton papa te manque, c'est triste.
Ah, il me manque.
Non,